Conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.
Bonjour chers auditeurs, bonjour, je reçois aujourd'hui Séverine Chaput, directrice générale déléguée des activités de promotion et membre du directoire de BNP Paribas Real Estate. Bonjour Séverine.
Bonjour Myriam.
Alors, nous sommes en visio, il y aura peut-être un petit décalage pour les auditeurs, mais nos techniciens seront absolument absorbés ce léger problème peut-être de son. Je vous remercie de cet entretien. On a eu l'occasion de se croiser à Villehybride et dans d'autres lieux où la pensée sur l'urbanisme et l'architecture est très dynamique. Et j'avais vraiment envie de ce dialogue aujourd'hui, c'est important d'avoir la vision des promoteurs et votre vision particulièrement sur la ville durable et inclusive. On en parle beaucoup, mais voilà, quelles sont les dynamiques, quels sont les éléments qui vous portent sur cette ville durable et inclusive,
hein. Merci Myriam, ravie également de l'opportunité de cet échange. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est des termes qu'on voit un peu partout et parfois qui sont assez peu incarnés. Et pour autant, ils nous semblent essentiels dans la manière dont on vit nos métiers de promoteurs. Et vraiment, ce sont des sujets qu'on met à l'œuvre de manière très concrète dans chacun de nos projets. Quand on parle d'inclusion, c'est d'abord parce que les projets immobiliers, on les fait pour ceux qui vont vivre ces projets, qui vont habiter les logements, qui vont travailler dans les espaces de bureaux qu'on développe, qui vont profiter des activités, des loisirs, des commerces, etc. Donc on ne peut, à mon sens, le faire que si on se projette dans cette logique d'usage et de personnes qui vont profiter de ces nouveaux quartiers, nouveaux lieux, nouvelles identités urbaines.
Alors, c'est vrai que les promoteurs ont l'habitude de travailler la ville et de travailler sur ces nouveaux aspects de la ville. Mais en général, on considère qu'ils sont là pour faire l'objet, pour construire l'objet, pour le délivrer et puis quelque part partir ailleurs vers un autre projet. Comment vous entendez et comment vous travaillez cette durabilité pour qu'il y ait une espèce de pérennité, de fil conducteur, peut-être dans le dialogue avec les élus, dans le dialogue avec les habitants? Quel est l'ADN, on va dire, des nouveaux projets qui sont mis en œuvre aujourd'hui par BNP Real Estate?
C'est un point qui est très important, ce que vous soulevez, et sur lequel, à juste titre, on est interpellé en tant que promoteur, puisque, comme vous le rappeliez, notre métier, finalement, consiste à développer un programme, à le vendre à des particuliers, à des institutionnels, à des investisseurs divers, et non pas à rester sur les lieux, puisque, en tant que promoteur, on n'a pas vocation à être investisseur de long terme. Et donc, on prend des engagements, quelque part, qui vont, eux, perdurer. En tout cas, on développe des ouvrages qui vont perdurer, et pour autant, nous, on ne sera pas là pour s'assurer que leur usage est exactement conforme à ce qu'on avait pressenti. Et donc, il y a plusieurs manières de travailler cette durabilité des engagements, cette crédibilité des engagements. D'abord, en premier lieu, c'est dans la capacité qu'on a à exécuter un programme conformément aux engagements qu'on a pris, ce qui est vraiment la signature de BNP Paribas Real Estate, mais qui est un point absolument clé dans la manière dont on fait notre métier.
Alors, ouais. Ça veut dire que sur certains projets... Pardon.
Ouais.
Ça veut dire que
pour
sur certains...
pour répondre à votre question plus précisément, en termes de garantie en fait, d'usage quelque part et de cette capacité à se projeter, je citerai deux manières plus précises de travailler. D'abord, en amont, associer ceux qui sont susceptibles d'exploiter les lieux qu'on va développer. Donc, on va travailler dans le domaine artistique avec des partenaires qui seront présents dans la durée. On va travailler avec certains exploitants de commerce qu'on a vocation à développer pour que déjà ils puissent se projeter et concevoir les espaces d'une manière adaptée. Donc, c'est vraiment dès l'amont d'associer ceux qui, eux, seront présents dans la durée du projet. Et puis, c'est également plus en aval, cette fois, de travailler main dans la main avec un certain nombre d'investisseurs à qui on a vocation à vendre les espaces développés et donc eux-mêmes portant des engagements pérennes. Et ça peut être des investisseurs aussi bien sur des espaces de travail que sur des infrastructures énergétiques, des infrastructures de mobilité. On travaille beaucoup avec des acteurs de ce type pour offrir aux utilisateurs, aux habitants, toutes les aménités, tous les services qui vont faire la qualité du quartier.
Alors, est-ce que vous avez un ou deux projets concrets sur lesquels me donner des exemples pour que les auditeurs puissent comprendre justement la particularité et sur quel type de produits vous travaillez à la fois en amont et puis sur le fait d'avoir peut-être un an ou deux ans après, je ne sais pas si vous avez déjà mis en place ce type de process, une vérification de ce qui a été proposé et la durabilité des problématiques qui ont été mises en place et la manière dont elles vivent deux ans ou trois ans après.
Je citerai un projet qu'on a remporté récemment qui est l'éco-quartier de gare de la ville de Cachan.
Un projet qui a été lancé, emblématique, bravo de toute façon déjà, parce qu'en Île-de-France on connaît bien ce projet et vraiment félicitations sur ce beau projet.
Merci Myriam, on en est ravis, c'est vraiment un projet qu'on a porté collectivement. D'abord, il est intéressant de souligner que c'est un projet qui a été lancé conjointement par la ville de Cachan et par la Société du Grand Paris, donc avec un niveau d'exigence fort et auquel on a répondu nous-mêmes collectivement, BNP Paribas Real Estate en copromotion avec SPI et ses proms, et puis avec un atelier d'architectes dont Denis Valode, Gaëlle Amonique, donc vraiment tout en... l'associé Poral et également Poral Studio. Donc vraiment une équipe pour porter des engagements forts. Et donc la manière dont on a travaillé aussi portait sur les enjeux de concertation.
Oui, la concertation est très développée à Cachan et je sais que c'est un des points importants, extrêmement vraiment vif et très ancré dans la ville.
Très prégnant, avec une vie associative extrêmement riche. Et donc on a présenté notre projet à plusieurs reprises et à différentes étapes à un jury citoyen qu'on a encore revu il y a quelques jours avec la maire Hélène de Commarmont pour leur représenter le projet lauréat et les grands axes de travail.
Alors est-ce que c'était un projet déjà complètement arrêté ou est-ce que évidemment la ville et les habitants ont la possibilité de moduler, de faire, de transformer un petit peu ce projet?
C'est un projet qui a été élaboré avec les habitants pendant près de deux ans, puisque la consultation était longue, jalonnée d'échanges, d'ateliers de travail. Et bien sûr, au cours de ces ateliers, on a pu amender le projet. Donc, c'est des éléments qui sont très concrets. On parle de la hauteur des bâtiments, on parle de la programmation des rez-de-chaussée, des socles, de la réflexion sur le logement, comment faire en sorte qu'il soit le plus qualitatif possible. Donc c'est vraiment un projet qui s'est nourri de tous ces échanges. Et puis, comme toujours, on est au début de l'histoire. Donc pour nous, promoteurs, quand on emporte un projet, c'est une étape importante, mais ce n'est jamais qu'une étape dans la vie du projet. C'est plutôt le début de la vie du projet. Donc des évolutions pourraient encore voir le jour.
Oui, d'autant plus que, sauf erreur de ma part, c'est un projet qui a été développé, en tout cas, avant la RE 2020, qui, pour la partie logement, va être mise en œuvre avec la RE 2020. Donc, je suppose que là-dessus aussi, il y a des évolutions nécessaires du projet sur lequel vous aurez une obligation, quelque part, de répondre à ces attentes.
On a des ambitions environnementales extrêmement fortes sur ce projet. On a beaucoup travaillé le choix des matériaux, et notamment des matériaux biosourcés, avec un bâtiment en terre crue, avec le recours au bois. On a également un enjeu, quand on parle d'enjeux environnementaux, ça rejoint la problématique des usages qu'on évoquait tout à l'heure, puisque les mètres carrés les plus vertueux d'un point de vue environnemental sont, à mon sens, ceux qui sont utilisés au maximum de leur potentialité, à 100%.
Ça veut dire qu'on est dans la flexibilité d'usage, ça veut dire qu'on est dans la possibilité.
Dans la flexibilité et dans la réversibilité, puisque les espaces de bureaux ont été pensés comme et conçus comme réversibles en logement à moyen ou long terme.
Et logement traversant avec des espaces extérieurs possibles? C'est-à-dire, comment on construit aujourd'hui dans cette... Parce qu'il y a énormément de promoteurs et d'architectes qui travaillent sur ces valeurs d'usage transverses, sur cette réversibilité. Là, c'est un projet extrêmement concret. Ça veut dire qu'il est les futurs appartements dans des immeubles de bureaux qui font 18 mètres d'épaisseur. Les futurs appartements seront obligatoirement traversants avec des loggias. Comment on conçoit si tôt cette réversibilité?
La meilleure des manières, justement, c'est précisément d'y travailler dès la conception. Et tout d'abord, la trame des bureaux, c'est vrai qu'on a des standards en tête, mais aujourd'hui, on voit bien que les espaces dans lesquels on travaille sont finalement de plus en plus hybrides et qu'on peut inventer de nouveaux formats. Je pense qu'il faut s'affranchir d'un certain nombre de standards.
Donc, c'est des immeubles de bureaux, par exemple, non pas de 18 mètres, mais de 15 mètres d'épaisseur?
Alors, ça peut être des immeubles de trame un peu plus réduites, mais c'est également ce que vous citiez, c'est-à-dire cette capacité aujourd'hui à avoir des trames standards de 18 mètres et puis une partie de ces espaces mutables en balcon ou loggia qui permettront d'avoir des trames de logement un peu plus étroites et en plus bénéficiant d'espaces extérieurs. Donc, c'est typiquement les solutions qu'on met en œuvre sur ce type de projet.
Alors, c'est pas neutre non plus en coût, en fluide. La réversibilité, ça a quand même un coût. Comment fait-on, vous, promoteur, pour mettre en œuvre cette équation économique qui n'est pas évidente, surtout par les temps qui courent, hein?
On est tous aujourd'hui très vigilants quant à l'évolution des coûts de construction. Ça impacte nécessairement nos métiers et notre manière de faire, mais plus globalement toute la chaîne de valeur de la production immobilière et notamment de la production de logements, qui reste tout à fait indispensable. Sur le sujet de la réversibilité, on peut le voir comme un surcoût, on peut le voir aussi comme un élément générateur d'une valeur supplémentaire.
Alors, on a abordé un certain nombre de sujets. Ce que je vous propose, Séverine, parce qu'on arrive là au terme de cette interview, c'est peut-être de continuer une autre fois à élaborer, à discuter et à travailler ensemble, j'irais de vive voix et à partager, comme vous le faites sur Vilibride ou dans d'autres lieux de réflexion, toutes ces thématiques qu'on vient d'aborder à une autre fois, n'est-ce pas?
Avec plaisir, Myriam.
Merci Séverine et à bientôt sur nos antennes.
Conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam.